Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Spotzol, le podcast des cyclistes aventuriers, épisode 64, ici Richard Delhomme. Aujourd'hui, je fais à nouveau un débrief sur la Hop 1000 avec Adrien Lichty. Adrien est arrivé à la 9e place et revient pour nous sur cette aventure éprouvante. Sans plus attendre donc, Adrien Lichty.
Oui, allô ?
Monsieur Lichty, bonjour. Richard Delhomme.
Salut Richard, comment ça va ?
Eh mais ça va superbe et toi ?
Ça va bien, ouais.
Tu as récupéré ? Ouais, oui, donc en pleine récup, ça veut dire que tu en as encore un petit coup dans les carreaux ?
Ouais, là ça va être compliqué, ouais. C'est un peu plus dur que la dernière fois.
C'est-à-dire ?
Franchement, les deux premiers jours après la Hope 1000, ça a été compliqué, ouais. J'avais l'impression d'être passé sous un camion. Et compliqué. C'était aussi la chaleur qui n'a pas aidé, je pense.
Ouais.
Il fait chaud, c'est compliqué pour récupérer. Et puis, ouais, c'était vraiment, vraiment éprouvant.
C'est marrant parce qu'à t'entendre, là, tu vois, ça fait 56 secondes qu'on est en ligne. Et ça me rappelle ce que m'a dit Sofiane, ses premiers mots, c'était « j'essaye de récupérer ». Et quand on a parlé 24 heures ou quelques heures après l'Atlas, toi ou lui ne m'avait pas dit, vous m'avez pas parlé d'un tel épuisement, d'un tel niveau d'épuisement. J'ai pas l'impression que ça vous ait pompé autant l'Atlas.
Je pense pas que c'est comparable. L'Atlas, il y avait quand même des parties roulantes, des parties plus plaisir, on va dire, en guillemets. Je sais pas si j'ai pas eu de plaisir à la Hope, mais à la Hope, t'as vraiment quasiment que de la montée. T'es tout le temps à très faible vitesse. Et ouais, c'est difficile, quoi. T'as le temps de réfléchir. Ouais, au niveau articulaire, ça, tu ramasses quand même plus.
Ouais, donc malgré tout...
Ça évolue quand même dans le bon sens. Ma récupération a évolué dans le bon sens quand même.
Oui. Tu t'es pas fait mal, tu t'es pas blessé, t'as pas de truc pour le moment irréversible, a priori.
Non, j'ai pas du tout, pas de tendinite, rien du tout. J'ai 2-3 petits bobos, mais qui sont quasiment guéris, donc non, tout va bien. Tout va bien.
Alors, on va remonter un petit peu le temps. Il y a quelques mois, tu venais de finir l'Atlas Mountain Race. On écoutait les petits oiseaux dans la palmeraie. Tout allait bien. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux?
Entre les deux, moi, je suis rentré en Suisse. J'ai assez bien récupéré de cette course. Ouais, ça allait assez vite. Ouais. Franchement, en 2-3 semaines, j'étais bien. Ouais. Et après, moi, j'ai continué à rouler. Il y a eu cette histoire de Covid, comme je pense que tu as pu le vivre aussi en France. Nous, en Suisse, on a eu beaucoup de chance. On n'a pas été confinés comme vous et comme d'autres pays. C'est-à-dire que quasiment tous les commerces étaient fermés, mais on pouvait aller faire du vélo. Il n'y avait aucune interdiction d'aller faire du vélo à l'extérieur. Donc, moi, j'ai continué à rouler. J'ai même fait quelques voyages à vélo en Suisse. C'était super, il n'y avait personne. Et suite à ça, moi, j'étais au niveau vélo, j'étais inscrit à l'Italy Divide. Parce que je voulais une fois la terminer, cette course. Et elle a été annulée, repoussée à dans un mois ou à l'année prochaine. Donc moi, je l'ai, j'ai dit pour l'année prochaine, parce que normalement, j'aurais dû aller sur la Transcontinentale cette année. Donc, oui, j'ai continué à rouler. Et puis, la Hope 1000 a été maintenue assez vite. L'organisateur Félix Villy m'a annoncé sur son site que la course était maintenue. Il a dit, bon, les gars, ça rentre pas dans les mesures restrictives du Covid. On fait des départs échelonnés de toute façon. Donc, au pire, il y aura pas de briefing, mais ça change rien pour nous, quoi. Donc, cette course est maintenue à la date prévue, quoi. Donc, voilà ce que j'ai fait entre temps.
Et t'en as profité également, comme m'a dit Sofiane, pour le prévenir. Viens donc, il y a une course, un petit peu.
Oui, j'ai avisé d'autres personnes aussi. Je leur ai dit, ils viennent d'annoncer que c'est maintenu. C'était genre, je crois, 2 mois avant l'événement. Donc, il y avait le temps de se préparer encore. Et oui, j'ai avisé des gens comme quoi c'était maintenu, quoi. Puis qu'il allait avoir certainement des désistements pour les coureurs qui venaient de outre-Atlantique ou d'ailleurs, quoi.
Ouais. Oui, de pays tout juste déconfinés et arriver sur cette épreuve en n'ayant pas beaucoup roulé, ça paraissait un petit peu compliqué visiblement.
Oui.
Et toi, visiblement, tu as continué à rouler, donc finalement, tu étais déjà plus ou moins prêt. Ça s'est passé comment, malgré tout? Même si là, tu es, ça s'entend, en plus, tu es extrêmement fatigué. Ça s'est passé comment, l'épreuve? Comment tu as géré? Comment tu as dormi? Est-ce que tu as réussi à maintenir un tempo, conforme à tes attentes ou à tes capacités? Est-ce que tu as eu des accros? Est-ce que tu as été surpris par le terrain? Voilà, raconte-moi tout ça.
Il s'est passé plein de choses.
Ah, et oui. Et tu me gardes le côté GPS pour la fin, d'accord?
D'accord, ouais. Non, il m'est arrivé plein de choses, c'était trop bien. Donc, ouais, déjà, c'est la deuxième fois que je l'ai fait. Je l'ai fait l'année passée. Je l'ai fait plus en mode vraiment cyclotouriste. J'ai roulé avec 3 autres gars. On a fait des restos tous les jours. On a dormi 4 heures toutes les nuits. J'avais mis 5 jours et demi, ce qui est en bon temps, franchement. Et là, cette année, je me suis dit, j'y suis allé avec de l'ambition. Et je voulais vraiment approcher le record du parcours, qui était 4 jours et 4 heures de Stefan Kronski. Donc, je me suis dit, je vais beaucoup moins dormir. Je vais mettre des pneus tubeless. Et je vais vraiment pas poser mes fesses dans un restaurant, quoi. Donc je suis parti avec ces ambitions là et les premiers 100 km sont bien passés, ça roule vite, c'est assez plat. Au bout de 100 km, j'ai toujours envie d'abandonner, moi, personnellement. Enfin, au bout d'environ 4-5 heures, je me sens super mal. Mon corps, il me dit, faut que t'arrêtes, faut pas rouler plus que ça. Et là, ça me l'a fait un petit peu, mais après, c'est passé. Et puis, suite à ça, j'ai continué. J'ai dépassé le point où j'avais dormi la première nuit l'année d'avant. Donc, j'avais dormi aux environs de... un peu avant 200 km. Après, j'ai continué et je savais que Stefan Stronski avait dormi la première nuit au kilomètre 255, un truc comme ça. Et j'ai dépassé ce point-là et je suis arrivé dans la ville d'Einsiedeln. Et là, j'ai trouvé un super sas de banque où j'ai passé la nuit. C'était super.
T'as passé donc, la nuit, t'as passé combien de temps dans le sas de banque? T'as pas dormi 6 heures quand même?
J'ai dormi 1h15.
Ah ouais, disons que c'est vrai que c'est vraiment passé la nuit. Hein. J'ai passé la nuit.
Non, je voulais, en fait, sur cet événement, je voulais vraiment tester où étaient mes limites de sommeil. Parce que ça peut s'entraîner, mais je pense que chaque être humain est quand même limité. Quoi. On ne peut pas tous ne pas dormir pendant... une centaine d'heures, quoi. Je pense qu'on n'est pas tous capables de ça. Et moi, je l'ai vu, je n'étais pas capable du tout, quoi. Donc là, j'ai dormi très peu, enfin, 1h15. Je me suis... Après, en repartant, j'étais bien. J'étais quand même bien. Mais la matinée d'après, elle était terrible, quoi. J'étais... ça a été compliqué pour moi. Je m'endormais. Mais j'ai toujours continué à pédaler, j'avançais toujours. Quoi. Puis là, c'était le premier matin. J'étais environ dans les 6 premiers, un truc comme ça. Ouais. Enfin, j'ai remonté des jambes durant la nuit. Ensuite, cette journée-là, elle s'est bien passée. Le temps, il a été très bon jusqu'à la fin de la course. À savoir que le premier jour, on a eu quand même un bon orage pendant 2-3 heures, mais ça n'a pas trop ralenti les vents. Ça allait bien. Ah oui, j'ai oublié de dire. Le premier jour, il y a une anecdote. On passe beaucoup de passages pour les entrées de champs, pour les vaches. Ouais. Il y avait des barrières qu'il fallait taper avec le guidon pour passer. Et j'ai passé cette barrière un peu vite. Et ben j'ai chuté. Je suis tombé sur la tête.
Oh.
Et je suis tombé sur la tête, ouais, et sur le côté gauche. Et suite à ça, ben, je me relève, j'avais rien. Heureusement, je redresse mon guidon, tout va bien. Et là, il y a un rider belge qui me passe, c'est Stéphane Martins, l'organisateur de Across the Five. Mmh. Et il me dit un truc très juste, il me dit, ça sert à rien de vouloir gagner des minutes pour ensuite perdre des heures. Quoi. Ouais, j'ai bien retenu ça. Quoi.
Ouais, c'est très très juste.
Ouais, autant être prudent mais continuer à avancer que ouais. Le but c'est d'arriver à l'arrivée en lançant le morceau, hein, quelle que soit ta vitesse. Donc ouais, je suis revenu sur le premier jour. Ensuite, le deuxième jour, ça s'est bien passé. J'ai toujours mon matos, ça a bien joué. J'ai bien profité du parcours. C'était superbe. Vraiment des superbes montées, des superbes descentes. Bon, moi, je suis pas très technique en descente, donc j'ai quand même pas mal marché. Puis j'avais un vélo tout rigide, donc c'était un peu compliqué.
Ouais, c'est ce que j'allais te demander. Tu regrettes ou pas? Ce choix ou alors c'est peut-être parce que j'ai observé la semaine dernière les photos de Alfredo Bettencourt qui était au départ et j'ai noté, ouais, qu'il y avait quand même beaucoup de tout suspendu.
Ouais, il y a je pense un bon choix sur cette course, c'est d'avoir tout suspendu et d'être très léger. Ouais. Ça passe bien. Après, si tu regardes, bah, Sofiane, il était en vélo en gravel. Et, l'ancien tenant du record, il était en vélo de cyclocross avec des pneus de 42.
Ouais.
Il a beaucoup marché, j'imagine, mais il s'est pas arrêté.
Par contre, Jorren Boringer, donc celui qui gagne, il était en tout suspendu. Et quand on fouille un petit peu, quand on fouille un petit peu son Facebook, on découvre qu'en plus, c'est un habitué du VTT et du cross-country. Donc, si on peut dire, à vélo, c'est pas un manche. Il sait piloter dans les singles. Hein. Il sait prendre les singles. Donc ça, c'est, j'ai l'impression que c'est aussi déterminant dans la fatigue accumulée, dans la décontraction au fil des heures et des jours. Ouais.
Oui, c'est sûr, c'est une épreuve quand même assez spéciale à ce niveau-là. Ouais. C'est très particulier. Ouais.
Et donc le deuxième jour s'est poursuivi. Pour toi, tu disais tout à l'heure que la première matinée, donc le matin du deuxième jour, a été très difficile. Pourquoi,
ouais, difficile, hein.
Pourquoi avoir dormi aussi peu dès le premier jour, puisque tu voulais te tester? Et pourquoi te mettre en difficulté dès le premier jour finalement? Pourquoi ne pas tester graduellement de réduire le sommeil plutôt que de te mettre dans le dur direct le premier jour et de le payer la première matinée?
Finalement. J'avais déjà fait ça à l'Atlas, dans l'autre sens, de dormir de moins en moins. Et là, je voulais expérimenter autre chose.
Bon, ben voilà.
Après, ouais, c'est qu'une course de vélo, quoi. C'était juste intéressant de tester ça, quoi.
Bien sûr.
Et puis, j'avais un état d'esprit au début. Cette course, j'avais vraiment envie de la terminer, quoi qu'il arrive. J'aurais mis 2 semaines, même si je cassais mon vélo. Donc, de toute façon, je testais des choses, quoi. Donc, je regrette pas.
Et ta deuxième journée s'est poursuivie? C'est poursuivi comment alors?
Ouais, c'est bien poursuivi. Ouais, ça a bien joué la deuxième journée. Après la deuxième journée, je suis arrivé où? Ah oui, la deuxième journée, en fait, en temps normal, c'est la Haute Mille, au kilomètre 500, on arrive devant la maison de l'organisateur de Félix Vili. Et en fait, on peut lui envoyer en colis depuis le départ de la course, lors du briefing, qui sera disponible dans son domicile à n'importe quelle heure de la journée ou de la nuit. Mmh. Donc on peut laisser la nourriture, tout ce qu'on veut en fait. Cette année, ça n'a pas été possible à cause du Covid.
Ouais.
Donc là, je suis arrivé avec... Il y avait deux autres Suisses aussi avec moi là. On est arrivé vraiment en 23 heures à sa maison. Il n'y avait personne, c'est bizarre. Et donc, kilomètre 500, qui est la moitié de la course en kilométrage, mais pas du tout la moitié de la course en comptant le dénivelé, parce qu'on n'avait que 12 000 de dénivelé. Il restait encore 18 000. Enfin. Donc, suite à ça, j'ai continué en bout. Les deux autres Suisses ont dormi devant une maison, je crois. Et moi, j'ai continué. J'ai vu qu'il y avait une église dans la montagne. Donc, j'ai continué à monter. Et l'église était ouverte. En Suisse, les églises sont vraiment toutes ouvertes. Je sais pas si en France, c'est le cas, mais en Suisse, elles sont ouvertes. Donc, j'ai dormi dans l'église la deuxième nuit. Mmh. J'ai dormi un peu plus, toi. Donc, je suis dans un super endroit. Donc, deuxième jour, se passe bien. Et après, moi, j'ai dormi 2 heures, environ 2 heures. Puis je suis reparti. Donc là, on est au troisième jour. Et le troisième jour, il se passe aussi bien. J'étais un peu fatigué le matin, mais c'était mieux que la veille. Mmh. Et après le troisième jour, en fait, là, on attaque les gros dénivelés, enchaînement de col dans le canton de Berne. Donc c'est beaucoup de montées sur la route, en fait. Beaucoup de montées roulantes. Donc c'est assez sympa pour pouvoir manger en même temps, boire en même temps. Et puis ouais, des paysages magnifiques là, c'était vraiment superbe quoi. J'adore vraiment cette région. J'ai bien pu profiter. J'étais assez seul à ce moment-là. Et les problèmes de GPS, tu veux que j'en parle à la fin parce que là je commence déjà à en avoir.
Si ça commence à ce moment-là, tu peux déjà nous servir tes péripéties, vas-y.
À ce moment-là, en fait, là, je suis parti avec une dynamo plus un powerbank pour compléter. Ouais. Je savais qu'avec la vitesse à laquelle je gravissais les montées, ça allait pas suffire. Donc, j'ai eu un problème avec ma dynamo. J'ai imaginé ça. En fait, elle chargeait plus mon GPS. Et en fait, je suis passé sur mon power bank qui s'est vidé au bout d'un moment. Et en fait, j'ai compris au bout d'un moment que c'était dû à mon câble USB qui était abîmé. Il marchait avec ma power bank, mais pas avec ma dynamo. Bon, bref, j'ai eu ce souci-là et je me suis dit, de toute façon, j'ai pas de souci. J'ai mon Garmin Itrex en backup qui marche à pile. Il y a aucun problème. Je peux switcher là-dessus après et puis je serai tranquille. Et à ce moment-là, mon GPS est vide quasiment et je décide de passer sur mon Itrex. Je le prends, je l'allume et là, les fichiers, ils sont plus dedans. Enfin, ils sont pas dedans, je les trouve pas. Alors que le matin de la course, j'ai revérifié, j'étais là. Enfin, j'ai pas encore regardé pourquoi, j'ai pas compris encore. Bref, il est arrivé un truc, j'ai dû les effacer, j'en sais rien, c'est de ma faute en tout cas, je sais pas pourquoi. Donc suite à ça, je panique pas, je me pose, j'essaie de trouver des solutions. Et je me dis, il faut que j'achète un powerbank en fait. Mais là, en réfléchissant, je me dis que les powerbanks qui sont à la vente, ils sont chargés à 20 ou 30% apparemment, c'est ça. Mmh. Donc ça n'avait pas la peine de faire ça. Donc j'ai quand même réussi à... J'avais un câble USB de rechange, heureusement. J'en avais pris un deuxième. Donc vu que les descentes étaient assez roulantes, j'ai réussi à recharger quand même mon GPS durant la journée. Mais je me suis dit, le soir, il faudra vraiment que tu dormes à côté d'une prise électrique, quoi. Il faudra dormir et puis charger en même temps, profiter de ce moment-là. J'aurais pu m'arrêter dans un restaurant pendant 6 heures et puis être tranquille, mais j'aurais pas eu beaucoup de temps. Je voulais pas ça, quoi. Donc là, je continue de rouler. Donc c'est des superbes endroits. Là, j'arrive à la à la Kleine Scheidach. C'est une longue montée sur route d'une vingtaine de kilomètres avec des cascades d'eau. C'est magnifique. Je ne sais pas si tu as vu la vidéo de Lyle Wilcox il y a 2 ans sur cette course.
Oui, je l'avais regardé quand j'ai interviewé elle. Je lui ai posé plein de questions justement après avoir regardé cette vidéo. Et on la voit, ouais, on la voit beaucoup marcher d'ailleurs.
Ouais. Et c'est des super endroits quoi. Donc là, j'ai ravi cette montagne et puis je décide de dormir à Grindelwald, qui est une sorte de station de ski en fait. Et là, je trouve un abri bus avec une prise électrique, donc c'était parfait. Donc j'ai dormi là-bas, j'ai pu recharger mon GPS, et puis j'ai nouveau dormi 1h30, 2h, je sais plus. Et après, le lendemain, c'était en minuit et demi quand je suis reparti, parce que je me suis arrêté assez tôt, j'ai gravi la grosse Scheidach, je crois. C'est aussi en col à plus de 2000 mètres environ, mais il faisait moins en haut. Je suis passé, il y avait du vent, excusez-moi. Donc là, je continue, ça se passe super bien. Et après ça, on arrivait où après ça? J'arrive de la peine à me remémorer. Donc suite à ça, on continue. Ah ouais, suite à ça, en fait, on est redescendu sur Interlaken. Et là, il y a les. Moi, je trouve que c'est les deux plus grosses montées de la course, quoi. C'est des passages où on monte, normalement, il y a de la neige en haut. C'est des chemins pour arriver à des pâturages. C'est super raide. Il n'y a même pas d'épreuve nord. Il n'y a personne qui va là-bas. Mais c'est magnifique, quoi. Donc là, j'ai attaqué ces deux grosses montées durant la journée pour ensuite passer vers le fin du passage dans le film de Lael où on la voit marcher sur ces crêtes. C'est des crêtes avec des chemins qui passent entre des rochers. C'est un endroit assez dangereux qu'on n'a pas pu rouler l'année passée. À cause d'éboulements, c'était fermé. À cause de la neige, c'était fermé. Donc là, ouais, c'était super de passer dans ce chemin-là. Bon, c'est quasiment de l'escalade. Là, tu portes ton vélo, il tape partout dans les rochers. Et ouais, t'as pas le droit à l'erreur. Faut vraiment, faut pas tomber de ces falaises. Il y a des endroits, il y a quand même du vide, quoi. Et là, je savais qu'il y avait, derrière moi, il y avait un Italien et un autre Suisse ou un Allemand et un autre Suisse. Ben, eux, en parlant avec eux à l'arrivée, ils m'ont dit qu'ils sont passés de nuit là-bas. Je sais pas comment ils ont fait. C'était vraiment, vraiment dangereux comme passage. Donc, ouais, je passe ce passage. C'était superbe avec le coucher du soleil. C'était magnifique. Après, une descente assez technique et puis une descente sur Sanan où je voulais manger, mais je suis arrivé trop tard. Et là, j'ai dû dormir dans la rue à Sanan parce que de nouveau, j'ai dû charger mon GPS. Et Sanan, c'est une ville, c'est aussi une station de ski, sauf erreur, mais assez huppée quand même. Donc il y a des belles boutiques dans les rues. Et souvent, au pied de ces boutiques, il y a des prises électriques à l'extérieur. Enfin, j'ai assez facilement trouvé une prise électrique et j'ai dormi devant une boutique de luxe, quoi. Et vu que c'est un peu la saison morte, il n'y avait personne dans les rues, donc j'ai dormi là. Et puis ouais, là je voulais dormir assez peu parce que j'étais bien. Et donc j'ai voulu dormir 1 heure. Et en me réveillant, je vois que mon GPS n'était pas assez chargé. Donc j'ai rallongé ma sieste 1 heure. Et en me réveillant la deuxième fois, c'était bon. Mais là, ça m'a vraiment fatigué de redormir de cette deuxième heure. Ou de scinder ma nuit sur ma sieste en deux. C'était compliqué. Ouais. Donc là, c'était la troisième nuit, je me réveille, j'ai pas pu manger la veille, donc je suis allé me ravitailler à la gare où il y avait un distributeur. Puis là, il m'arrive un truc assez spécial, j'étais hyper fatigué. Et c'était assez spécial, j'ai commencé à discuter avec moi-même là, pendant une vingtaine de minutes. Je suis un peu fatigué.
Ouais, quand tu commences à te parler tout seul, c'est que ça va mal.
Ouais, je disais, qu'est-ce qu'on fait là? Enfin, on va prendre le train. Enfin, puis au bout d'un moment, je me suis recentré. J'ai dit, mais mon gars, maintenant, il faut que tu suives ta trace GPS. T'as que ça à faire. Si t'es un peu fatigué, c'est pas grave. Tu vas suivre ton trait rose et puis dans le bon sens, et tout ce que tu as à faire. Donc là, je suis parti et puis j'ai suivi mon trait rose dans le bon sens. Et puis, là, j'ai regardé. J'étais 8 ou 9e. J'ai regardé le track leader, voir où j'en étais. Et il y avait toujours l'Italien Michele et puis le Suisse, je ne sais plus comment il s'appelle, qui était genre une heure ou deux heures derrière moi, quoi. Donc je me suis dit, allez, maintenant il faut les tenir derrière jusqu'à l'arrivée, quoi. Puis après, j'ai commencé ma journée, j'ai fait une première ascension de nuit. Je suis arrivé sur un plateau, là, en gruyère, où il faisait bien frais, il y avait de la brume, c'était magnifique. J'ai continué, je suis arrivé dans une vallée, je suis arrivé dans le fameux village où Joram a emprunté un vélo à Infang.
En tout cas, j'ai vu les images et c'est assez marrant, ouais, de voir cette image, ouais.
Et voilà, j'ai trouvé une boulangerie qui venait d'ouvrir. Ils connaissent ça, la course, c'était assez drôle. La boulangerie m'a dit, chaque année, on voit des gars affamés venir ici. Je suis tout content de me voir.
Ah oui, ça fait ils vont faire la moitié du chiffre d'affaires avec vous ce jour-là, donc ils sont plutôt contents.
Ouais, mais je leur ai dit, si vous voulez faire du business, mettez une ardoise dehors avec le nom de la course.
Ouais.
Comme ça se fait sur certaines courses aux États-Unis et ça marche. Ça marche. Et par la suite, il y avait encore des montées, quoi. Enfin, on allait au lac Noir. Lac Noir, magnifique descente sur le lac Noir avec la vue sur le lac. Et après, continuer direction le lac des Gruyères. Là, il a de nouveau commencé à faire chaud. Là, c'était vraiment la deuxième journée où il faisait chaud, quoi, là, dans les montées, ouais, plus de 30 degrés. C'était assez pénible. J'ai eu de la peine avec la chaleur, ça, je sais pas pourquoi. Pourtant, je me suis bien déshabillé à chaque fois. Bref. Et après, c'était troisième jour et demi, je fais le tour du lac de Bulle. Et je savais que le dernier point de ralliement, c'était à Vuadan. Après, il n'y avait plus rien jusqu'à la fin, il restait environ 60 kilos. Et à Vuadan, j'arrive à 12h01, la boulangerie elle fermait à 12h, donc voilà. Mais heureusement, il y avait un supermarché à 300 mètres, donc c'était parfait. Donc là, je vais au supermarché, j'achète ma dernière nourriture pour les derniers 60 kilos. Et là, il y a un gars qui a reconnu, il y avait un Dutch Watcher, mais réel, qui m'a dit, j'ai fait la course la semaine passée avec mon frère, on a roulé ensemble, c'est trop cool de te voir et tout. Il y a quand même des gens qui nous reconnaissent ça.
Ça fait un petit soutien malgré tout, parce que même si tu vois de temps en temps, tu vois des gens, mais ça te remonte le moral un petit peu quand même à un moment donné.
Oui, bien sûr.
Ça te reconnecte un petit peu avec le réel peut-être.
Ouais.
Aussi.
Oui, puis il y a même quelqu'un qui est venu me voir dans la course que je connais que des réseaux sociaux. C'était incroyable. Au milieu du canton de Berne, j'entends une voiture me rattraper. Et puis c'est un gars qui s'appelle Yannick que j'avais jamais vu en vrai. Puis il me dit « Ah, c'est Yannick !» Puis je reconnais des réseaux sociaux. Puis il vient vers moi, il dit « Ah, encore un aigle, la nourriture !» Il me fait « Ah, tu veux quelque chose ?» Je fais « Non, je ne vais pas accepter, mais trop plus venu me voir et tout. » On a discuté deux minutes, puis j'ai continué, quoi. C'est génial, quoi.
C'est marrant, ça.
Et apparemment, c'est super difficile de voir les coureurs quand tu es en voiture, si tu restes pas posté sur la route des heures avant qu'ils viennent, parce que le tracking, il y a un petit décalage, et c'est assez compliqué. Ça, c'était bien cool.
Et après, ton arrivée sur Montreux... Là, tu as fait le plein de nourriture au supermarché, il te reste 60 km. Comment ils étaient ces 60 derniers kilomètres ?
Alors, les 60 derniers kilomètres, il y a deux montées. Il y a une montée sur la route où il faisait bien chaud, où tu arrives en haut d'un téléski. Et après, tu longes, tu fais le tour du Moléron, c'est une montagne qui est au-dessus de Bulle. Après, là, tu as une superbe vue sur le lac Léman. Après descente, tu descends sur Albeuve, Et Albeuf, tu fais le col de Jaman, qui est un col qui est bien difficile en gravier. J'avais fait à la Hope l'année d'avant, puis je l'avais fait en cyclotourisme, en gravel, 3 semaines avant. Et là, il est bien passé. Je suis super bien monté ce col. J'étais vraiment bien. Je me sentais vraiment mieux que le jour d'avant. Je commençais vraiment à me sentir bien.
À ce moment-là, tu étais à quelle place?
J'étais toujours, je crois que j'étais 9e, je crois. Ouais. Moi, je suis resté 9e. Les deux derrière moi, j'ai vu qu'ils ont un peu accéléré. Mais après, je me suis pas paniqué. Enfin, je me suis dit, je suis 9e. Si les deux commencent à accélérer pour me rattraper, bah, ils risquent eux-mêmes de perdre un top 10. Mmh. Donc finalement, au bout d'un moment, je pense qu'ils se sont parlé, qu'ils se sont dit, bon, écoute, on laisse tomber la deuxième place et entre nous, on se disputera le top 10. C'est plus simple que s'épuiser à essayer de revenir sur lui. Peut-être qu'on n'y arrivera pas. Quoi. Donc c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont finir ensemble, hein, finalement, les deux. Mmh. Et moi j'étais 9e, j'ai réussi à les tenir derrière. Bon, je pense, hein, j'ai accéléré sur la fin, puis ça a joué. Puis après, ben là, il restait 20 kills de descente, et là, il y a tous mes GPS qui sont éteints. Évidemment. Mais heureusement, j'avais encore un backup sur mon téléphone, donc ça a joué. J'avais ma trace sur mon téléphone dans différents programmes, donc c'était bon. Mais j'avais pas de support pour fixer mon téléphone sur mon vélo.
Ouais.
Donc c'était un peu cascade, mais ça a joué. J'avais le temps.
Oui, puis il te restait que 20 km, c'était pas non plus comme si t'en restais 200, justement. Non, question bête, là t'étais à 20 km, tu savais que tu devais retourner, arriver à Montreux sur les bords du lac. Tu dois absolument suivre la trace de l'organisateur ou tu aurais pu rentrer à ce moment-là comme tu voulais? Bah, Montreux. Ou fallait vraiment.
Il fallait être classé,
ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, il fallait
oui,
vraiment.
Il fallait être classé,
Oui, oui, il fallait
vraiment. Il fallait être classé, faut suivre oui, la trace, oui.
Oui, oui, bien sûr.
Ouais, ouais. Et puis, c'est une trace qui est particulière. On passe vraiment dans des endroits magnifiques. On descend dans des vignes, sur des pavés, sur des vieux chemins dans les vignes. Il faut vraiment aller chercher ces chemins.
Ouais.
Donc, cette trace GPS, elle est vraiment parfaite. C'est assez impressionnant parce qu'il y a aucun moment un doute. Quoi. Elle a été roulée. On sent que c'est une trace qui a été roulée. Quoi.
Il n'y a pas d'improvisation.
Non. Et l'organisateur, il fait rouler des gens dessus les deux semaines avant parce qu'il a fait modifier la trace GPS à deux reprises les deux semaines avant parce qu'il y avait des chemins fermés pour les travaux, etc.
Ouais.
Donc c'est assez sérieux pour. Pour une course, c'est gratuite finalement. Enfin, c'est pas vraiment une course, mais c'est gratuit.
Comment pour l'Atlas, quand tu m'as raconté comment tu t'es senti à l'arrivée, tu m'as raconté les derniers kilomètres dans le sable et tu as maudit Nelson. Là, les derniers kilomètres et ton arrivée au pied de la statue de Freddie Mercury. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête?
À savoir que j'étais en train de descendre avec mon téléphone dans la main. Donc, c'était un peu compliqué. Je devais faire gaffe aux voitures et tout. Et il y avait du monde quand même au bord du lac. Je suis arrivé vers 17h50, je crois. Il y avait du monde. C'est un lieu quand même assez touristique. Il y a des restaurants.
Carrément,
c'était assez... Il fallait être attentif, quoi. Je connaissais l'endroit. Il y avait... J'étais content d'arriver. Mais il y avait moins d'émotions que... Au Maroc, ça n'avait rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. Mais j'étais très content d'arriver quand même.
Pourquoi ça n'a rien à voir?
Parce que le Maroc, c'était vraiment un chemin, une route que je découvrais. Là, à Montreux, je connaissais. C'est la deuxième fois que j'ai la course. Ce qui est assez spécial quand même. Je trouve de faire deux fois une course, je pense que je ne le referai plus. Il y a moins cet effet de...
Ouais.
J'ai envie de découvrir ce qu'il y a derrière la montagne, quoi. Ça, je trouve assez important.
Qu'est-ce que tu retires de ces... ton temps final est de combien?
J'ai mis 4 jours et 11 heures.
Donc tu t'es rapproché du record quand même et tu as largement amélioré ton temps de l'année dernière.
Ah oui, j'ai mis 22 heures de moins.
Ouais.
Et ouais, je suis hyper content quoi. Enfin, le niveau, il a explosé en 2 ans sur cette course. En tout cas, c'est impressionnant. À savoir qu'il y a 3 ans, le record, c'était 5 jours et 5 heures, un truc comme ça. Il y a 2 ans, 4 jours, 4 heures, et là, bah, il descend à 3 jours et 17 heures.
À quoi est due cette amélioration du temps? Les gars roulent de plus en plus vite, s'arrêtent de moins en moins, un petit peu tout ça. À quoi c'est dû? Ou un choix de matériel plus pertinent, peut-être?
Un peu de tout, je pense. Devant moi, il y avait un Belge qui venait pour, je crois, la 2e ou 3e fois. Et il avait monté en vélo que pour cette course. Il avait quasiment aucune affaire avec lui. Il avait des temps de passage tous les 100 km sur son cadre. Et il était hyper motivé. Il avait vraiment un vélo spécifique pour la course.
Ouais. Qu'est-ce qu'il avait de spécifique, son vélo?
Il avait un Scott en carbone assez vieux, mais ultra léger. Avec des disques de 180 à l'avant et à l'arrière pour pouvoir être endurant en descente. Et il avait, il avait 2 toutes petites sacoches de 4 litres devant et derrière, et c'est tout.
Donc il avait prêt, prêt à affronter le dénivelé, le bonhomme.
Exactement, ouais. Et après, je pense que les coureurs, les bons coureurs, arrivent vraiment à appréhender une course de 1000 km comme une grosse sortie, une seule grosse sortie de plus en plus. Enfin, c'est pas une aventure qui va être scindée en plusieurs jours, c'est vraiment une grosse sortie. On peut encore le faire, je pense, sur une course de 1000-1200 km. Après, ça devient plus compliqué. C'est possible de pas dormir sur 1000 km. Et ça c'est prouvé.
Donc tu veux dire que de plus en plus... Les courses de 1000 km vont se banaliser entre guillemets et vont devenir des gros blocs d'entraînement faits tambour battant finalement. Ça va un petit peu se banaliser.
Pour les cyclistes qui en ont la capacité, oui, qui peuvent le faire. Ouais, je pense que c'est possible.
Et toi, oui, vas-y, je te laisse terminer.
Ouais, ça demande d'autres capacités, des courses plus longues, je pense, de 2000 ou 4000 km. Parce que là, finalement, j'avais pas de plaque de couchage, j'avais juste une bivy, donc j'avais pas à gérer l'humidité de mon sac de couchage durant la journée. Alors que sur une course plus longue, si ton sac de couchage il est mouillé après la première nuit, la deuxième nuit, ça va être compliqué de dormir avec, quoi. En tout cas, je vois ça comme ça, quoi.
Et toi, à l'avenir, là, je sais qu'il y a la fatigue, qu'on a tendance à voir un petit peu plus en noir avec la fatigue. C'est quoi la suite de ton programme pour cette année? Tu vas laisser le vélo pendant 6 mois parce que tu veux plus le voir, ou au contraire, tu as déjà de participer à une autre épreuve? Et si oui, quelle est-elle?
J'ai vraiment envie de faire du VTT, quoi. Enfin, en ayant fait cette course, je me suis dit, ouais, là, c'est quand même vachement bien de rouler en VTT dans la nature, quoi. C'est vachement mieux que la route, quoi.
Ouais.
Je sais pas, il y a la Transcontinentale, elle a l'air poussée. Ça, je suis pas trop déçu finalement. Après, en VTT, je sais pas, je commence à regarder. J'ai ce qui est prévu, j'ai une course de route en octobre, la Tu Volcano Sprint au sud de l'Italie, entre Naples et le sud de l'Italie. C'est une course que j'avais déjà faite l'année passée. Donc j'ai ça de prévu, et après, entre-temps, je sais pas. J'ai envie de voyager aussi, j'ai envie de faire du cyclotourisme. Je vais changer de VTT aussi, donc il faut que je monte mon vélo. Donc ouais, je sais pas encore. J'ai envie de faire du VTT,
ouais. Ouais. J'ai l'impression que là, tu vois, on en parlait tout à l'heure, Sophia avec Sofiane également, que les formats vont devenir un petit de plus en plus compacts, que les performances vont devenir de plus en plus élevées, et ça pour tout le monde, parce qu'il y a de plus en plus de références, donc chacun sait à peu près où aller. Et j'ai l'impression que le tout-terrain va quand même demeurer ce petit îlot d'aventure par rapport à la route, où c'est relativement prévisible. Et par contre, le tout-terrain, ça offre beaucoup plus cette notion d'aventure, de liberté. Il y a vraiment les paysages, on est au cœur de l'environnement. Et c'est beaucoup plus intéressant, finalement. Ça participe un petit peu à cette, toi, ton envie de tout-terrain?
Ouais, il y a cet aspect-là, puis aussi l'aspect que... moi, je trouve qu'en VTT, il t'arrive plus de choses, quoi. Tu peux casser du matériel et tu pourras pas forcément trouver un shop à côté. Bah là, j'avais plus de batterie, il fallait que je cherche des villes pour charger mes batteries, quoi. Alors que sur la route, il y a des maisons partout, c'est des lieux de vie. C'est aussi beaucoup plus safe dans la montagne, je trouve. On va pas s'endormir sur le vélo, enfin ça arrive beaucoup moins, je pense.
Ouais.
Si on s'endort, on va pas tomber à 60 km/h. Et puis c'est plus challenging au niveau du matériel, au niveau de la nourriture.
C'est un vrai challenge, le tout terrain. Il y a beaucoup de choses à apprendre, finalement.
Ouais.
Justement, en parlant de trucs à apprendre, t'as appris le tubeless, alors, si je comprends bien.
Ouais. Non,
et alors, ça a changé quoi?
Il y a plus de confort. J'ai pas crevé l'année passée, donc je sais pas si ça. Non, oui, beaucoup plus de confort, c'est beaucoup plus simple. Tu pars avec une seule chambre à air, si jamais.
Ouais, voilà, vraiment donc, au cas où. Rappelle-moi, à l'Atlas, t'en avais pris combien? 5 plus des kits de.
3 chambres à air. 3 chambres à air et plein de rustines.
Et t'as crevé combien de fois?
Je crois 5-6 fois. Ça va encore. Il y a des gars qui ont crevé 15 fois.
Ouais.
Mais à savoir que. J'ai du cross-country au début des années 2000, au début de l'UST Mavic, et j'avais des tubeless à l'époque. Tubeless UST sans liquide à l'intérieur, et j'ai roulé avec ça pendant des années. Non, le tubeless, il n'y a rien à dire, c'est quand même beaucoup mieux. Quoi.
Tu m'étonnes. comment tu récupères? C'est bête comme question, mais tu récupères comment? Tu glandes à la maison. Ouais, ta petite méthode secrète pour récupérer physiquement et moralement, tu as un petit rituel, tu vas au marché, tu cuisines, non, tu regardes la télé, tu lis, tu fais quoi finalement?
Moi, j'ai pas de télé déjà.
Quoi?
Non. J'ai pas de télé et je suis sur les réseaux sociaux depuis 5 mois, tu vois, donc je suis un peu à l'ancienne. En rentrant, j'ai beaucoup mangé, j'ai beaucoup dormi. Et puis, hier, je suis allé rouler sur la route et ça m'a fait beaucoup de bien. J'étais vraiment fatigué, vraiment, vraiment fatigué parce que, après ces courses, moi, je fais souvent de la rétention d'eau. Je sais pas si ça arrive à d'autres coureurs, mais je prends de l'eau dans les jambes, ça me fait mal. Et après, ça part. Et donc là, c'est bon. Et j'étais bien fatigué et, hier, je suis roulé, puis ça a un peu remis les choses en place.
Ouais.
Donc, je mange, il faut manger sainement des fruits et des légumes, il faut arrêter de manger des sneakers et puis du pain et de la malbouffe qu'on mange en course, quoi. Il faut vraiment se nettoyer, puis manger des choses qui donnent de l'énergie, enfin, qui sont saines, quoi. Ouais, boire beaucoup d'eau et puis parler aux gens de ce que tu as fait pendant la course, quoi. Raconter ton histoire.
Voilà. Bon, mon petit Adrien, je te donne rendez-vous à ta prochaine course pour le débrief. Et puis j'espère qu'on aura l'occasion de rouler d'ici là un de ces quatre, parce qu'on s'est loupé récemment. Moi, ça, je sais pas si t'as
vu. Le 6 juin, t'étais pas sur la route de la soif?
Ouais, mais ça s'est organisé un petit peu à la va-vite. La météo était également, je pensais rouler les deux jours. Et finalement, le dimanche, il a fait un temps tellement pourri que je suis rentré tout de suite. Et puis, ça s'est organisé un petit peu sur tout ça à la va-vite, en fait. Donc, la prochaine fois, je pense en septembre.
Les routes, les... les frontières étaient fermées. Hein. Je n'aurais pas pu venir légalement.
Oui, oui, oui. Bon, oui, légalement. Légalement. Bon, ce serait arrangé. Je t'aurais récupéré vers Ambilly ou un truc comme ça. Et puis voilà. Et oui, septembre, on va essayer de refaire quelque chose tout terrain à bloc. Et puis voilà. Maintenant que maintenant que j'ai un VTT en plus, donc je peux aussi aller un petit, je peux un petit peu aller plus loin parce que là, avec le gravel, bon, c'est la Haute-Savoie, c'est superbe, mais c'est quand même pas un territoire de gravel quoi qu'on en dise. Et ça secoue un petit peu fort, donc. Un VTT tout suspendu avec les suspensions bloquées pour les monter, c'est quand même bien plus pratique. C'est bien plus marrant. Voilà. Tu veux faire une petite minute de solitude ou je te sens déjà bien esselé là, quand même.
Bah y a pas vraiment besoin. Non.
je te sens au bout du rouleau, mon pauvre.
Pourtant, j'ai bien dormi cette nuit. Quoi.
Ah ouais, mais ça sent que ça t'a,
ah ouais,
ça t'a pompé une énergie. Après le Maroc, t'étais pas dans cet état-là, vraiment.
Non, c'est clair que non.
T'étais pas du tout. Là, j'ai l'impression que t'es au bout du rouleau et qu'il va te falloir encore quelques jours pour revenir un petit peu dans un état normal, presque. Donc,
ouais, mais je me sens bien physiquement, ça va aller dans le bon sens, je suis content.
Ah bah oui, ça va toujours dans le bon sens, c'est ça la récup.
Bah ouais, c'est une course dure, et puis ouais, il faut venir à cette course, hein, si vous voulez faire de la... voir des montagnes suisses, là, vous allez en voir.
Ouais. C'est quand même très beau. Et ça, question bête pour terminer, est-ce que ça te... C'est pas que ça te reconnecte, parce qu'en plus, tu connais bien ton pays. Mais c'est important pour toi de voir la Suisse sous différents angles ou des endroits où vous n'avez pas forcément, vous Suisse n'avez pas forcément l'occasion d'aller tout le temps. Je pense à cette station de ski un peu huppée. C'est important ou intéressant pour toi de mieux connaître ton pays?
Oui, c'est intéressant. Mais franchement, le premier tiers de la course, Je me sentais totalement dans un autre pays. Enfin, déjà en Suisse, on a très peu d'unité nationale. On parle des langues différentes. On a vraiment différents caractères, différentes façons de voir les choses, manières de voir les choses. Et non, en tout cas, l'année passée, j'étais en totale découverte de ce que je voyais, quoi. J'aurais jamais passé sur ces routes, sur ces chemins, autrement que dans cette course.
Parce que là, vous êtes parti de Suisse germanophone?
Oui.
Ouais.
Et puis on passe en Suisse romande, mais en dernier quart de la course.
Ouais.
Vraiment.
Pas de passage en Suisse italienne?
Non, non, non.
Que du germanophone?
Exactement, ouais. Ouais. Du suisse allemand, quoi. Ouais.
Du bourbine, donc.
Ouais. Exactement.
Ouais, oui, non, mais attends, je te rappelle que j'y habitais, donc j'ai mes rudiments aussi, hein, quand même.
Okay. Donc,
quand même. C'est vrai que c'est difficile à écouter, hein. Le suisse allemand, déjà l'allemand, c'est moche. Pardon, hein. Mais alors le suisse allemand, c'est pas moche, c'est un peu rude. Mais le suisse allemand, par contre, c'est quand même autre chose. Hein. C'est un degré.
Ouais, il y a 20 suisses allemands différents. C'est un truc.
En plus, ah ouais, là par contre,
pas localisé.
Ouais. Mais au niveau de la langue, enfin c'est bête, mais tu vois, t'as des rudiments, toi, de suisse allemand. Tu comprends
je comprends le suisse allemand, mais ouais. Pour parler, c'est un peu compliqué. Voilà. Ils comprennent le hors de, ils comprennent. Mais c'était plus facile de se faire comprendre au Maroc qu'en suisse allemand, ça c'est sûr. Ouais.
Moi, je vais la noter, celle-là, si tu permets. Et puis, je vais te souhaiter une bonne journée, mon petit Adrien.
Merci.
Parce que je pense qu'on a fait le bout. Je l'avais précisé dans le début de l'épisode avec Sofiane, mais merci encore. Parce que toi, lui ou tous les autres, vous êtes toujours disponibles pour répondre tout de suite après une épreuve. Donc, je sais bien que vous n'êtes pas des athlètes de haut niveau, etc., comme on peut le voir à la télé pendant le tour. Mais la fatigue et l'investissement mental fait que, malgré ça, quelques jours après, vous êtes là pour échanger, pour parler. Et c'est quand même super, super sympa. Donc, merci à toi et merci à tous les autres. Voilà. C'est dit.
De rien, avec plaisir.
À bientôt, Adrien.
À bientôt.
Bise, salut.
Salut.